C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Très bien, on va aller maintenant à New York pour parler avec Catherine Loubier. Elle a été déléguée générale du Québec à New York pendant deux ans, un peu plus de deux ans, et elle a eu une main dans ce contrat de l'État de New York là, qui a choisi Hydro-Québec comme fournisseur d'énergie propre pour les 25 prochaines années. Ça a été, aujourd'hui, c'est le plus important contrat d'exportation jamais conclu par Hydro-Québec. Madame Loubier, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
Ben, écoutez, d'abord, félicitations. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de jeux en coulisses quand vous étiez là pour convaincre les autorités de l'État de New York de prendre Hydro-Québec comme fournisseur.
Oui, absolument. Ben, d'abord, c'est un travail d'équipe, là. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça avant moi. Madame Brochu, évidemment, là, la PDG d'Hydro-Québec, qui a conclu les dernières négociations. Mais effectivement, ça a été vraiment une opération pour convaincre et mettre en place les conditions gagnantes pour que ce genre de décision-là puisse aller de l'avant.
Écoutez, j'ai vu que c'est un contrat qui va s'échelonner sur 25 ans et j'ai vu, disons, l'étiquette plusieurs milliards. Qu'en est exactement là, le contrat vaut combien?
Mais je peux pas vous confirmer ça maintenant parce que il y a encore des négociations sur le prix. Mais je pense que et le premier ministre et d'autres intervenants ont quand même donné une brochette là. Évidemment de revenus là. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment ça change la donne pour le Québec. C'est extraordinaire pour la réduction de la pollution directement dans la ville de New York. On doit être fier de ça. Donc, ça va faire une énorme différence pour au niveau de l'environnement, mais au niveau de la prospérité du Québec. Ça crée des emplois, des bons emplois, et ça en crée aussi chez nos amis du Conseil de Canisataqué. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant des deux côtés de la frontière, on peut dire.
OK, mais ça n'a pas été simple, si je comprends bien, de convaincre les autorités de l'État de New York que l'hydroélectricité du Québec, c'est une énergie propre. C'est un peu surprenant d'entendre ça, parce qu'ici, on le sait, on s'en vante, on le revendique. Notre hydroélectricité, si on compare, disons, à des centrales de fabrication au charbon, au gaz, ben c'est vert. Quelles étaient les réticences à New York?
Oui, ben nous, c'est dans notre ADN, hein. Mais ici, à New York, quand je suis arrivée en poste, il y avait vraiment, il fallait aller s'expliquer, il fallait convaincre, il fallait aller expliquer que notre énergie est verte, comment elle est conçue, pourquoi on aspire à exporter cette énergie-là. Vraiment, qui est François Legault, qui est Sophie Brochu, qu'est-ce que c'est Hydro-Québec, comment on gère nos relations avec les Premières Nations, et qu'est-ce que c'est notre vision pour le futur? Il fallait aller s'expliquer et convaincre. Il fallait littéralement aller faire une campagne pour aller rencontrer toutes sortes de groupes de la société civile et des gouvernements, tant les syndicats que, évidemment, les groupes environnementaux qui ont certainement leur mot à dire dans ce genre de décision-là, les autorités étatiques et aussi de la ville de New York. Et il fallait régler deux, trois choses. D'abord, il fallait avoir assez plus d'appui que d'opposition, hein, pour que les politiciens, on puisse leur paver la voie pour annoncer ce genre de décision-là. Notre énergie n'était pas reconnue comme verte dans l'État de New York et il n'y avait pas beaucoup de soutien. Alors, il fallait renverser ça. Il fallait convaincre, il fallait prendre le temps de faire les tournées avec mes collègues d'Hydro-Québec également, puis les élus du gouvernement du Québec. Et il fallait aussi changer la réglementation à New York pour pouvoir être capable de soumettre une proposition lors d'un éventuel appel de proposition qui décide du budget d'énergie pour les 10, 20, 25 prochaines années à venir. Donc, c'était là tout le travail à réaliser et ne pas prendre non comme réponse et ne pas dire être fataliste par rapport à un obstacle comme le fait que la réglementation ne reconnaît pas notre énergie. On peut toujours changer les choses quand on y met du temps, de l'énergie et qu'on a un plan, qu'on est prêt à être patient et à faire les efforts nécessaires sur un an, deux ans, trois ans. C'est possible de le faire. Pourquoi? Parce que ça fait du sens. Ça fait du sens pour New York, puis ça fait du sens pour le Québec.
Catherine Loubier, je le rappelle, vous étiez la voix du Québec à New York pendant, j'ai dit deux ans tantôt, mais presque trois ans. Et vous avez travaillé là sur l'effort de pédagogie pour convaincre les autorités là-bas. Donnez-nous un exemple, justement, peut-être le plus grand effort de pédagogie que vous avez eu à faire avec vos interlocuteurs dans l'État de New York pour convaincre ces gens-là que notre énergie est verte.
Ouais, oh mon Dieu, on a fait, je pense, plus de 300 rencontres en quelques années. Je pense qu'il fallait, il fallait établir une relation de confiance au départ. Tu sais, si on parle d'un contrat de, là, je dirais pas de chiffres, là, mais disons qu'on reprend ce qui a été dit, là, 20 milliards de dollars. Ben, il faut passer du temps à se regarder dans le blanc des yeux puis à établir une relation de confiance quand on fait un contrat de cette envergure-là, hein. Et il fallait convaincre que les changements climatiques, là, ça n'a pas de frontières. Et que c'est urgent. Et donc, s'il y a une solution comme ça au Québec extraordinaire, hein, qui est un legs extraordinaire qu'on nous laisse pour les générations futures, eh bien, pourquoi pas s'en servir maintenant jusque dans la ville de New York, là où l'énergie propre, c'est pas possible de l'amener sans construire cette nouvelle ligne de transmission en partie souterraine jusqu'à New York. Donc, des exemples, c'est de confronter finalement certains groupes de la société civile, même des groupes environnementaux, en disant ben donne-moi ta solution qui est la meilleure. Si t'en as une, donne-moi-la. Et si t'en as pas, ben écoute-moi, puis peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente. Puis au niveau des politiciens, ben c'est donner confiance aux politiciens qu'on va être des partenaires dans lesquels justement ils peuvent eux mettre leur confiance et qu'on va être main dans la main pour réaliser ces grands projets-là. Et que si ça brasse, si ça chauffe, on va être là aussi ensemble. Pour faire face à la musique, là. Et ça nous a pris beaucoup d'efforts. Puis je salue aussi le travail des Premières Nations du Québec qui ont, à plusieurs reprises, là, été dans les discussions pour essayer de... Parce que, bon, c'est pas évident non plus. Les politiciens, parfois, peuvent avoir peur que le dossier prenne une direction puis que ce soit un problème pour eux. Hein. Et donc, tout le monde, je pense, y a mis du bon sens. Tout le monde s'est dit, bon, ben, je les connais suffisamment, je leur fais confiance, allons-y, parce qu'on n'a pas de temps à perdre pour réduire la pollution le plus rapidement possible dans la ville de New York, parce que Hydro exporte depuis plus de 100 ans dans l'État de New York, mais pas dans le sud, parce qu'il n'y a pas de moyen d'amener l'énergie jusqu'ici, d'où le besoin de construire cette nouvelle ligne-là de transmission là qui va contribuer à quelques 2000 emplois du côté de l'État de New York.
Dernière question, Mme Loubier. Est-ce que l'affaire est dans le sac ou il y a peut-être un processus réglementaire qui pourrait faire dérailler l'affaire?
Ben, l'affaire est dans le sac avec la nouvelle gouvernante qui est extrêmement dynamique, Mme O'Cole, elle l'a annoncé. Donc, on peut croire en sa parole. Maintenant, vous le savez, dans ces projets-là, tout n'est jamais fini tant que c'est fini. On va procéder à la finalisation des contrats du côté de Mme Brochu d'Hydro-Québec. Puis après ça, ben il y a la construction de la ligne de transmission. Et quand ça se met à construire, ben là, c'est une autre série peut-être de problèmes, j'espère pas, là, mais de réactions hein, dans les communautés tout au long de la rivière, de la construction. Il peut avoir... C'est jamais terminé. Il faut toujours demeurer vigilant, convaincu, donner de l'information, ça a été extrêmement important, répondre aux questions, être là pour anticiper les obstacles qui pourraient se pointer jusqu'à ce que l'énergie puisse couler le long de cette merveilleuse autoroute verte-là. Je pense qu'on comprendra l'impact de cette autoroute verte-là entre Québec et New York là beaucoup plus tard. Je pense que ça sera énorme, mais non, c'est pas fini tant que c'est pas fini.
Ben merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça aujourd'hui, Mme Loubier. Bonne journée.
Ça me fait plaisir, au revoir.
Salut, c'était Catherine Loubier, l'ancienne déléguée générale du Québec à New York de février 2019 à la mi-août de cette année. Donc, vous l'avez entendu, il y a eu beaucoup d'efforts de pédagogie à faire dans la société civile et aussi auprès des autorités politiques et réglementaires à New York. Et ça a amené à ce contrat qui a été annoncé par Hydro-Québec aujourd'hui. Plusieurs milliards de dollars, période de 25 ans, sans doute à partir de 2025, le Québec qui va fournir une bonne partie des besoins en énergie de nos voisins new-yorkais. Il est arrivé une anecdote immobilière des plus cocasses à notre amie Mme Beauchamp. Ouais. Raconte-nous donc ça.
Bon, ben, je dis depuis longtemps, je me cherche un chalet depuis longtemps dans les cantons de l'Est et l'agente d'immeuble avec laquelle je travaille habituellement est en congé de maternité. Donc, je me suis retrouvée sans agent d'immeuble. Mais on avait vu un chalet, moi et mon conjoint, qui nous intéressait et l'agent inscripteur. J'avais entendu de bonnes choses sur ce bureau-là et je me suis dit, ben je vais aller visiter cette maison-là et en même temps, je vais leur faire part de la demande qu'ils pourraient magasiner pour moi, donc devenir un peu mes agents le temps que mon agente à moi revienne. je demande qu'on m'envoie les fiches, on me propose un autre chalet, genre je demande qu'on m'envoie les fiches.
Parce que t'as quoi, t'as vu le chalet que t'avais
ben,
dans le viseur?
J'ai vu le chalet, puis ça nous intéressait finalement moyen, mais on nous a dit il y en a un autre sur le marché qu'on vous aimerait peut-être vous montrer. Je dis parfait. Il m'envoie les fiches et donc je copie sur un courriel. Quelques minutes après, la patronne du bureau a répliqué à ce courriel-là en copiant tout le monde, donc moi aussi.
Sans savoir qu'elle t'écrivait?
Sans savoir qu'elle m'écrivait. Et elle a dit, cette cliente est gossante. Elle fait des offres basses. Faites attention. Moi, je suis une acheteuse. Je suis pas une vendeuse, OK? Moi, je ferais pas plaisir à un agent d'immeuble pour acheter une maison qui est surévaluée parce que le marché est en surchauffe. C'est un peu normal que je veuille faire des offres basses. Tu sais, je veux dire, je comprends là, qu'il y a un marché, mais à un moment donné, il m'a pas payé 450 000 pour une chiotte qui est en train de tomber à terre.
Là, ouais. Tu reçois ce message-là. Et hey. Tu sais que ça t'est pas destiné. Tu sais qu'elle a fait un reply
Absolument.
All, répondre à tous, qui ne t'était pas destiné. Qu'est-ce que t'as fait?
Ben, le premier courriel que j'ai retourné, c'est « Bravo, merci de m'avoir copié. Vous n'êtes pas très professionnel. » Là, elle s'est rendue compte de sa faute. Elle s'est confondue en excuses. Puis elle me dit « Mais écoute, je pensais que t'avais trouvé, t'as fait travailler très fort l'autre agent d'immeuble. » Puis là, je lui ai répondu à peu près 3-4 paragraphes en lui disant « Oui, l'autre agent d'immeuble a travaillé très fort. » Mais étant donné que le marché est en croissance et devenu très, très fort, je n'ai pas été capable de trouver le chalet que je voulais. On avait acheté, on s'est retiré d'une offre parce que les fondations semblaient être toutes pourries. Fait que j'ai tout expliqué ça.
Tu vas pas faire une offre élevée pour faire plaisir à l'agent.
Ben voilà, tu sais, je veux dire quand même. Là.
Et là, est-ce que t'es encore en affaire avec eux?
Non, on nous a rappelé le lendemain pour savoir si on voulait toujours visiter, j'en revenais pas, fait que j'ai dit que je passais un tour.
OK, on va parler de tout ça avec Georges Bardagy et bien d'autres sujets. Salut Georges!
Bonjour Patrick!
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un répondre à tous aussi embarrassant?
Ça, je suis obligé de dire que ça m'est déjà arrivé, mais je pense pas avec le nombre de courriels qu'on envoie, mais pas aussi embarrassant que celui-là. Effectivement, on est dans une conjoncture spéciale. Ça n'empêche pas que les courtiers immobiliers, leurs règles obligent à un devoir de réserve, puis beaucoup d'empathie pour les acheteurs qui essaient de trouver présentement une propriété puis qui voient les prix augmenter, comme c'est le cas pour Catherine.
Georges, on parle de la forme de cette gaffe-là, mais sur le fond, est-ce que Catherine est réputée dans cette agence-là faire des offres qui sont basses, mais je veux dire, l'acheteur veut toujours payer le moins cher possible, puis c'est tout à fait normal. D'un point de vue de courtier immobilier, est-ce que c'est objectivement gossant d'avoir à faire des offres basses?
Ben pas du tout. L'acheteur a le droit de faire la promesse d'achat qui juge le bon prix pour cette propriété-là. Puis effectivement, il y a des maisons présentement qui se vendent à des prix tellement hauts à cause de la surchauffe, à cause du manque d'inventaire. Je pense pas que c'est la faute des courtiers, c'est le marché qui est comme ça. On dit qu'au Canada, présentement, il manque environ 2 millions de propriétés pour arriver à un marché équilibré. Donc là, c'est certain que tous ceux qui pensent voir le marché baisser, mais pour des maisons de campagne puis des chalets, d'ici 2 ans, je suis obligé de dire que c'est pas impossible qu'il y ait que ça soit un petit peu plus équilibré d'ici 2 ans, parce que ça coûte cher entretenir des deuxièmes maisons, puis les gens vont pouvoir peut-être commencer à voyager normalement dans le futur. Mais pour ce qui est de l'immobilier en général, tous ceux qui attendent que les prix baissent, faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup moins de demandes. Donc, moins de population qui a besoin de se loger, ce qui n'est pas le cas présentement.
Mais Georges, je reviens sur le marché des résidences secondaires, là. Les maisons de campagne, les chalets. Oui. Moi, j'ai eu un chalet, Georges. Ça n'a pas duré ben longtemps parce que j'ai eu l'impression que pour mes besoins, j'aurais pu creuser un trou, mettre de l'argent dedans, puis j'aurais perdu moins d'argent. Il y a plein de gens qui ont acheté des résidences secondaires pendant la pandémie, est-ce que ces gens-là vont réaliser que ça coûte pas mal plus cher et c'est pas mal plus de troubles qu'ils pensaient?
Vous me faites peur, Patrick, parce que j'ai fait la même chose. Acheter une maison de campagne en Estrie. j'ai des sueurs en vous parlant. Mais c'est pas faux. C'est vrai que ça coûte beaucoup de sous. Par contre, comme les gens ne pouvaient pas aller nulle part, ils ont pris le budget des voyages puis ils l'ont mis dans le chalet. Puis jusque-là, il y a une certaine logique. On a pu avoir un endroit pour s'évader un peu de l'effet de la pandémie, qu'on vivait moins bien en ville, mettons. Mais disons que je pense que déjà, la ville de Montréal est en train de renaître. Ça va beaucoup mieux. Il y a des activités, il y a des gens. Donc, moi, je sais pas à long terme ce que ça va donner, mais pour l'instant, on est encore dans un marché de surchauffe au niveau des chalets. Puis oui, ça coûte cher à entretenir. Puis oui, Catherine, faites bien d'acheter le bien qui vous convient pour le prix que vous jugez. Puis il n'y a aucun courtier qui a le droit de refuser une promesse d'achat. C'est sûr qu'un client qui fait visite 30 à 40 propriétés, puis qui offre toujours en bas du prix alors qu'elles vendent toujours au-dessus du prix, à un moment donné, le courtier, lui, vend son temps. Fait que dans le fond, c'est comme s'il faisait une perte. Mais c'est leur devoir d'être représenter leur client comme il faut et d'écrire toutes les offres que vous avez envie de faire.
Mais j'ai jamais, le pire, c'est que j'ai jamais fait d'offres en dessous du prix.
Non, je sais. J'ai eu des clients. Moi, j'ai des clients, ça fait 12 ans qu'ils attendent que le marché baisse. Puis forcément, à chaque année, c'est de plus en plus frustrant pour eux de voir le marché aller dans l'autre sens.
Mais moi, ce qui m'étonne, là, c'est dans tout le magasinage que j'ai fait, là, c'est qu'à un moment donné, ça devenait presque agressif. On allait visiter, on avait fait une offre d'achat sur un chalet. Et tu sais, c'était rendu, c'est sans garantie légale. C'était rendu, tu sais, on avait de la pression là, parce qu'on a vu avec l'inspecteur que les fondations avaient un problème. On ne pouvait pas inspecter les fondations sans faire un trou dans le plancher. Tu sais, je vais pas acheter une maison puis me retrouver avec 100 000 piastres de fondation à faire sur une maison. Tu veux qu'elle soit quand même en état. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de surprises après avoir acheté des maisons secondaires tout croche, sans inspection, sans garantie légale, qui vont se retrouver avec des problèmes majeurs, puis ça va leur coûter drôlement plus cher.
Tout à fait. L'OACIQ, présentement, a mis dans ses formulaires une obligation de divulguer d'abord aux acheteurs de faire une inspection en bâtiment, ce qui est une très bonne chose. Moi, je conseille tous mes vendeurs de faire une inspection pré-vente, qui est aussi une bonne chose, parce que là, la maison est déjà inspectée avant même de faire une promesse d'achat. Donc, ça évite tout le roller coaster émotif que l'acheteur doit vivre d'acheter une maison, de se voir y habiter, puis ensuite être obligé de se récuser. Même chose pour le vendeur qui perd sa vente. Donc, puis juste vous dire, les courtiers immobiliers, c'est pas eux qui ont décidé de vendre sans garantie légale. Les clients vendeurs demandent à des amis, juristes, avocats, notaires, comment je fais pour part de troubles? Ben, ils disent, t'as juste à mettre, cette vente est faite sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Mais ça dit très bien ce que ça veut dire. C'est pas très marketing. Ça veut dire que c'est au risque et péril de l'acheteur. Ce qu'on oublie de dire, les juristes, aux clients vendeurs, c'est que ça représente normalement entre 5 et 8 % de la valeur d'une maison d'acheter sans garantie. Donc, ça vient aussi avec un prix. Et ça, les gens ne sont pas toujours éclairés là-dessus lorsqu'ils décident de vendre sans garantie légale.
Georges, même dans un marché qui est en surchauffe comme ça et très à l'avantage des vendeurs, les vendeurs vont payer un prix en argent parce qu'ils vendent sans garantie légale?
Mais ça dépend où on est rendu dans notre vie, mais c'est vrai que les clients les plus âgés disent « Écoute, j'ai-tu besoin de troubles? J'ai entendu qu'un ami s'est fait poursuivre pour telle affaire, ça a duré tant de mois. » Je dis « Écoute, au point où je suis rendu, là, vends ça sans garantie légale, quand même qu'on laisse de l'argent. Moi, je veux pas de troubles. » J'en ai des clients comme ça, Patrick.
Bien, l'autre facteur, moi, qui m'a beaucoup étonné, c'est le payer cash. Parce que ça aussi, à un moment donné, on avait fait des offres plus élevées que l'autre gang qui était contre nous. Puis là, à un moment donné, on n'a pas eu de maison. Écoute, je pense qu'on était comme à 25-30 000 piastres de plus. Puis on l'a pas eu parce que eux, dans leur demande, avaient écrit « payer cash ». Mais je me dis, tu sais, il va pas arriver avec une valise d'argent.
Non, faut faire attention. Lorsqu'on dit « payer cash », les gens, c'est un terme qui porte à confusion. Ça veut dire que les gens font une promesse d'achat sans condition d'obtenir un prêt hypothécaire. Ça veut pas dire qu'ils vont arriver avec une valise d'argent en billets. Là. C'est des gens qui ont pas de condition hypothécaire. Ils font la preuve qu'ils ont l'argent dans un compte de banque ou dans leur compte d'investissement. Et ça vient remplir l'obligation du courtier immobilier de vérifier qu'au moment de la transaction, l'acheteur avait les liquidités pour faire cette transaction-là. Après ça, donc ils peuvent décider ensuite de prendre une hypothèque. Donc, ce que les acheteurs rusés font, qui ont des sous, des REER ou d'autres investissements, ils disent, voici, j'ai la preuve pour acheter la maison, mettons, qui coûte 500 000 $ Puis, une fois que la maison est achetée, j'ai gagné la surenchère ou peu importe. Là, avant de passer l'acte de vente dans 2 mois chez le notaire, ben, je vais aller chercher une hypothèque quand même. Donc, c'est pas parce qu'ils ont dit qu'ils allaient payer comptant qu'ils vont payer comptant. Ils ont démontré qu'ils avaient le comptant puis que c'est pas, l'hypothèque n'est plus une condition.
Ben, c'est ça, la distinction. Ils ont perdu des sous. Ils ont perdu des sous carrément.
Oui, effectivement, mais c'est pour ça qu'on dit toujours aux acheteurs présentement, vu qu'on va être obligé de jouer du coude, ben il faut s'assurer d'être préqualifié avant, de faire toutes ces vérifications-là financières avant. Ben c'est toujours une bonne idée parce que puis après ça de faire une lettre de présentation pour montrer parce qu'à prix égal, des fois ces lettres-là fonctionnent, on arrive à charmer les vendeurs qui font affaire, à, on joue sur leur corde sensible, puis des fois ils décident de vendre à un client ou une cliente pour qui ils ont des atomes crochus.
Très intéressant. Merci, Georges Bardagy. À la prochaine.
C'est un plaisir. Bonne chance, Catherine.
Merci.
Au revoir.
Salut, M. Bardagy. Et courtier immobilier, ben on a appris que Catherine a...
C'est une cheap, coudonc.
Une réputation d'être un peu cheap, mais quand on achète une propriété, c'est cheap. Une très bonne idée.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Et première entrevue sur une nouvelle manifestation de coucou militants antisanitaires qui se sont présentés devant une école de Montréal-Nord, l'école Henri Bourassa. Aujourd'hui, vous le savez, ces militants-là là, multiplient les coups d'éclat. On veut évangéliser, recruter des adolescents dans le mouvement anti-vax et anti-masque. Mais il y a une surprise qui attendait les manifestants. Il y a des parents d'élèves qui sont venus confronter les négationnistes à l'école secondaire Henri Bourassa. Un de ses papas s'appelle Raymond Filion, pardon, il est avec nous. Monsieur Filion, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
Écoutez, content de vous avoir au micro. Racontez-nous ce qui s'est passé là ce matin.
Bien, ce qui s'est passé, ça a commencé en fin de semaine en tant que tel. Monsieur Maléga François, il a décidé de poster sur Facebook qu'il s'en allait faire une manifestation à l'école Henri Bourassa aujourd'hui, puis à l'école Louis Riel demain. Donc, sur plusieurs groupes anticonspirationnistes que je fais partie, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit que ça n'a pas d'allure, qui continuent à faire ça, puis on devrait s'organiser pour aller contre-manifester devant les autres.
OK, fait que là, vous vous êtes présenté là. Ils étaient combien et vous étiez combien les contre-manifestants?
Je dirais qu'on était une dizaine de contre-manifestants, puis eux autres, au maximum, une vingtaine à peu près.
OK, ça a été pacifique ou ça s'est parlé un petit peu dans le nez?
Ben, ça a été pacifique en tant que tel, mais ce qu'ils ont joué un peu, c'est de faire un peu d'intimidation, essayer de nous bousculer ou de nous faire fermer le clapet. Moi, j'avais un porte-voix, okay. Sur M. Maléga.
Vous aviez comme le leader anti-sanitaire, là.
Exactement. Je me disais, ça a comme pas de sens d'aller manifester devant eux autres, parce qu'avec son porte-voix, il va quand même pouvoir parler de crier dans son porte-voix. Donc j'ai dit, ben pendant qu'il parle, moi aussi je vais parler. Donc j'ai acheté un porte-voix pour aller le faire taire le plus possible.
Votre but en y allant avec ces autres parents là, confronter les manifestants antisanitaires devant l'école de votre enfant, le but c'était quoi?
Le but, là, c'est de dire qu'on est tanné de voir des manifestations devant les écoles de nos enfants. Ça n'a comme pas sa place. Nous autres, ce qu'on n'arrête pas de dire, puis on est une méchante gang qui parle que de ça, c'est que au Québec, on a le droit de manifester, mais des manifestations, ça se fait dans les rues ou devant le Parlement ou devant les bureaux des députés. Donc, ça n'a pas d'affaire à se faire devant des écoles puis dans des hôpitaux. Puis, quand on a vu ce qui s'est passé à l'école Louis Riel, il y a une couple de semaines qui sont allés manifester devant l'école de la petite qui venait de décéder, ça a donné vraiment un haut-le-cœur à tellement de monde. Moi, je vois ça arriver régulièrement dans mon Facebook. Ça n'a pas d'allure. Il faut faire quelque chose. Il faut l'arrêter. Tu peux pas aller parler à des enfants, à notre avis.
OK. Et je sais que les contre-manifestants ont fait jouer très fort la fameuse chanson du groupe Survivor, Eye of the Tiger, hein, un des hymnes des films de Rocky. Pourquoi vous avez fait jouer cette chanson-là?
Mais c'est parce qu'il y en a un qui a dit, vu qu'il y a des droits d'auteur sur une chanson comme Eye of the Tiger, s'il y a du monde qui vont notifier Facebook qu'il y a un droit d'auteur qui est violé, le live se couperait automatiquement. Donc, c'est pour arrêter de laisser propager sa désinformation sur Facebook en coupant ses lives. Mais en fin de compte, on a vu que ça n'avait pas marché.
Ça n'a pas marché. Mais écoutez, moi, j'ai vu la même tactique aux États-Unis. Puis des fois, les plateformes de médias sociaux ont retiré certaines vidéos parce que les droits n'avaient pas été payés. Hey, Monsieur Filion, félicitations. Félicitations surtout d'avoir fait ça pacifiquement. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le jeu de ces gens-là et en faire des martyrs. Bravo. Salutations aux parents qui ont fait ça aujourd'hui.
Ben merci beaucoup, puis bonne émission.
Merci, M. Filion, un plaisir. C'était Raymond Filion, qui est le père d'une enfant qui va à l'école Henri Bourassa dans Montréal-Nord avec d'autres parents, mais est allé confronter les manifestants anti-sanitaires. Donc là, à Québec, on commence à en parler, on commence à se dire, écoutez, est-ce que ça devrait être légal, devrait être permis, ça, d'aller manifester devant des écoles pour dire aux enfants, faites-vous pas vacciner, le masque est dangereux, le vaccin va vous tuer. Est-ce que ça devrait être permis en temps de pandémie? François Legault lui-même aujourd'hui a annoncé que son gouvernement planchait sur un projet de loi spécial qui interdirait ces manifs antisanitaires. Ben, il y a aussi l'opposition officielle, les libéraux, par la voix de la députée de Saint-Laurent, Marois Risky, qui a proposé un projet de loi qui interdirait ce genre de manif. Elle est au bout du fil. Madame Risky, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui serait interdit si votre projet de loi déposé aujourd'hui était adopté?
Toute personne qui désire manifester contre les mesures sanitaires, contre le vaccin, ne pourrait pas le faire à 50 mètres d'un terrain qui est un établissement primaire ou secondaire. Donc, ça inclut l'école primaire, l'école secondaire, mais aussi pour penser aux installations qui sont offertes des services scolaires, par exemple un gymnase, où est-ce que des fois on a des cours qui sont donnés en éducation physique. Et là, il y aurait aussi des amendes beaucoup plus salées et aussi ça donnerait du mordant, donc les policiers pourraient intervenir immédiatement et non pas comme la semaine dernière, attendre environ 45 minutes avant de finalement distribuer des contraventions pour le bruit. Si le problème, c'est pas juste le bruit qu'ils font, là, c'est qu'ils donnent de la mauvaise information aux jeunes, ils les intimident, ils les haranguent. Alors ça suffit. Alors maintenant, je veux que l'Assemblée nationale d'une seule voix dise les manifestations anti-vaccins, anti-sanitaires au Québec, aux abord des écoles, c'est non.
Vous niaisez pas avec le POC dans les amendes qui sont suggérées. Vous parlez d'une fourchette qui irait de 1 000 à 125 000 $. Expliquez-nous qu'est-ce qui serait sanctionné.
Alors, j'ai pris au fond les amendes qui existent déjà pour, par exemple, le passeport vaccinal. Donc, pour une personne, un individu qui participe, ce serait entre 1 000 à 6 000 $. Et pour la personne qu'on sait très bien organise toujours les manifestations via les réseaux sociaux, ce serait pour l'organisateur entre 25 000 à 125 000 $ pour avoir organisé une telle manifestation. Et en cas de récidive, les montants seraient doublés.
Avez-vous demandé un avis juridique sur la légalité de tout ça? Parce que j'ai lu le projet de loi. Et ce que vous suggérez, c'est de sanctionner des gens qui diraient aux jeunes « allez pas vous faire vacciner ». Écoutez, il me semble, Mme Risky, puis je vais me faire l'avocat des antisanitaires, puis ça me fait mal de le faire, là, mais il me semble que dans une société de droit, on peut dire aux gens qu'ils ne devraient pas se faire vacciner.
Bien, premièrement, je suis moi-même avocate et j'étais aussi professeure de droit et j'ai enseigné aussi à l'École du Barreau. Alors là-dessus, j'ai consulté d'autres avocats, effectivement, mais je me suis inspirée d'une loi qui existe déjà depuis 2016. Celle qui empêche ceux que moi j'appelle les anti-choix, donc ceux qui se disent, eux, pro-vie, qui vont manifester devant les cliniques d'avortement. Ils n'ont pas le droit de le faire, ils doivent respecter une limite de 50 mètres. Alors, il y a déjà un précédent québécois et je pense qu'il y a suffisamment d'espace au Québec pour manifester ailleurs que devant des mineurs. Je rappelle que c'est allé devant une école primaire. Mais je demande aussi une autre affaire en attendant, parce que moi, je demanderais qu'on siège dès maintenant sur ce projet de loi. On est capable de le faire adopter par voie spéciale dès cette semaine. Mais il y a déjà des manifestations qui sont annoncées dans d'autres écoles. Le gouvernement peut mandater les avocats de l'État pour aller chercher une injonction devant le tribunal pour empêcher, en attendant l'adoption de ce projet de loi, une injonction pour empêcher les manifestations devant nos écoles.
Bien, le débat est lancé. Et je pense que ça rejoint plusieurs citoyens au Québec, Mme Risky. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci à vous.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Voter plus d'une fois, est-ce que c'est possible au Canada? Ben, il semble que oui. Des journalistes du quotidien Métro ont répondu à l'invitation d'un citoyen qui affirmait hier que c'est facile de voter plusieurs fois dans la même circonscription. Ben, les deux journalistes, Naomi Guelpert et Lily Boisvert, étaient curieuses. Elles ont suivi le monsieur qu'elles n'identifient pas. Elles connaissent son identité, mais évidemment, la transaction ici, c'était, je vais vous expliquer comment ça marche, mais vous pouvez pas dire qui je suis. Le titre de leur article dans Métro aujourd'hui dit tout. Voter 15 fois, c'est possible au Canada. On l'a vu de nos yeux. Lily Boisvert est au bout du fil. Salut Lily.
Bonjour.
Donc je le précise, le gars n'a pas voté 15 fois. Il vous a montré comment faire. Qu'est-ce qu'il vous a montré?
En fait, la personne s'est rendue dans 15 bureaux électoraux, suivie par la journaliste Naomi Guépard du journal Métro, qui a été témoin de tout ce que cette personne a fait. Donc, la personne s'est rendue au bureau de vote, a demandé à être inscrit sur la liste électorale. On l'a laissé faire et ensuite, on l'invitait à se rendre à l'urne, à l'isoloir pour voter. La personne ne l'a pas fait. Elle quittait le bureau de vote rendu là. Donc, c'est ce qu'on avait dit en amont du test qu'elle voulait faire, qu'elle ne voterait pas, parce que le simple fait de se rendre jusque-là montre qu'il y a bel et bien une faille dans le système. Moi, cette personne-là m'avait contacté au déclenchement des élections fédérales en me disant connaître quelqu'un qui avait voté une première fois en 2015 quatre fois, qui avait repéré cette faille-là dans le système. Elle a fait le test quatre fois, ça a marché. Elle, cette personne-là, a bel et bien voté quatre fois. Et aux élections de 2019, elle a répété l'expérience, elle a voté cette fois-là 15 fois. Et cette personne n'a jamais été inquiétée, n'a jamais été appelée. Personne ne lui a dit qu'elle allait avoir des conséquences à ses votes multiples. Donc, la personne qui m'a contactée, moi, au déclenchement des élections fédérales, voulait voir si c'était vrai, voulait voir si c'était possible et voulait que les médias en parlent surtout.
OK. Quelques questions, Lily Boisvert. Premièrement, ça semble facile de faire ça.
Oui, c'est sûr que la personne a menti, donc la démarche comporte un mensonge. Et là, je peux pas donner tous les détails parce que je veux pas avoir l'air d'inciter les Canadiens à reproduire la fraude. Il y a un mensonge, mais le mensonge n'est pas l'identité de la personne, parce que l'Élection Canada dit qu'il ne faut pas mentir sur son identité quand on veut voter. La personne, 15 fois de suite, a donné son véritable nom, sa véritable identité. Et même ce que la journaliste Naomi m'a dit, c'est qu'à un moment donné, littéralement, les deux bureaux de vote où ils se sont rendus étaient côte à côte dans des bâtiments à des adresses
contiguës. Ouais, okay. Lily, est-ce que les 15 tentatives de vote là, qui auraient pu être couronnées de succès, c'était dans la même circonscription?
Oui, c'était dans la même circonscription. Okay. Une circonscription de Montréal, on ne va pas dire laquelle, justement pour éviter des répercussions négatives pour la personne qui a fait le test.
Je crois comprendre que tout ça est possible, puis je le répète, Lily, là, vous allez pas dire c'est quoi le stratagème pour encourager les gens à le faire, mais tout ça est possible parce que les listes électorales sont pas informatisées.
Exact. D'une part parce que au fédéral, on peut s'inscrire le jour même du scrutin sur la liste électorale, ce qu'on ne peut pas faire au Québec. Et moi, c'est ce que ma source m'expliquait quand elle me disait à quel point c'était simple au fédéral de frauder. C'est que après le dernier référendum au Québec, on a modernisé les règles électorales pour que ce ne soit pas possible de s'inscrire le jour même des. Mais au fédéral, ce sont des règles qui datent de longtemps, qui n'ont pas été modernisées. Donc, parce qu'on peut s'inscrire le jour même et parce qu'il n'y a pas de système informatique qui signale quand une personne a voté plus d'une fois, c'est très facile, en fait, de tout simplement se rendre à un bureau électoral, de dire qu'on n'a pas encore voté, qu'on veut s'inscrire sur la liste, qu'on n'y est pas inscrit. Et à ce moment-là, on se fait montrer l'isoloir si on ment un petit peu. C'est sûr qu'il y a un mensonge qui est dit.
C'est quand même un peu inquiétant ce que vous décrivez dans votre article aujourd'hui dans votre.
Oui, parce qu'on se pose la question après combien d'autres Canadiens sont au courant de cette faille-là et surtout c'est qu'on se dit que le système est aveugle et c'est ça que Élection Canada m'a rappelé aujourd'hui, m'a envoyé un courriel pour me dire que ce sont des gestes illégaux, qu'on ne peut pas mentir pour voter plusieurs fois, mais le fait que le système ne voit pas les doublons comme ceux-là, le fait qu'il y a pas de filet de sécurité, en fait. Donc oui, on se pose la question, combien font ça comme l'ami de ma source? Combien d'autres personnes votent de multiples fois?
Inquiétant. C'est très intéressant. On peut lire ça aujourd'hui, Lily Boisvert, sous votre plume dans le journal Métro. Voter 15 fois, c'est possible au Canada. On l'a vu de nos yeux. Et c'est un article qui a été écrit en collaboration avec Naomi Guépard. Félicitations. Merci, Lily.
Merci, bonne journée.
Salut la journaliste Lily Boisvert.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Québec a annoncé aujourd'hui un plan d'$1 milliard pour inciter des infirmières qui ne sont plus dans le réseau public à y retourner, des retraités, des femmes qui travaillent en agence de santé privée, par exemple, et aussi des infirmières qui sont à temps partiel. On va les payer jusqu'à $15 000 pour en prime annuelle là, pour les inciter à prendre des postes à temps plein. Sonia Lebel est la grande gardienne du Trésor public. C'est elle la présidente du Conseil du Trésor. Elle est au bout du fil. Madame Lebel, bonjour.
Bonjour.
J'ai parlé à plusieurs infirmières aujourd'hui. Mes questions vont être basées sur leurs questions. D'abord, pourquoi des primes? Pourquoi pas ajouter à leur salaire, tout simplement?
Bon, ben l'idée, c'était qu'on a une convention collective qui est déjà très structurante. Hein, puis dans cette convention collective-là, ce que les infirmières nous demandaient, c'est une meilleure organisation du travail, donc des conditions d'exercice qui amène une qualité de vie, puis on le comprend. Et les enjeux principaux qui étaient demandés, c'était vraiment de restructurer le système de santé. Donc, la convention collective, c'est son objectif, c'est du long terme, c'est structurant. Il y a déjà là-dedans des grosses augmentations salariales. Il y a des primes pour le soir, la nuit, les fins de semaine. C'est sûr qu'elle vient d'être votée, si on veut. Donc, elle n'a pas encore eu ses pleins effets sur le terrain.
Okay.
Donc, ce qu'on a décidé de faire, là, c'est de ramener massivement des gens parce qu'on peut pas mettre en place toutes ces belles mesures-là quand il nous manque de monde, ça, c'est clair.
Les primes annoncées aujourd'hui vont durer combien de temps?
Okay. La durée des primes d'aujourd'hui, c'est pour un an. Elles sont versées en deux versements. Puis il faut se comprendre parce que le but des primes, c'est de ramener des gens et de les garder au moins un an. L'année, là, elle est basée sur à peu près l'évaluation qu'on avait fait avec la FIC, les autres syndicats, du temps où prendrait la convention pour avoir son plein effet, là, que les mesures se mettent en place, qu'on restructure les horaires. On parle d'horaires autogérés. Les infirmières qui nous écoutent vont comprendre de quoi je parle quand je dis ça. De surveiller avec attention et de contrôler l'usage du temps supplémentaire obligatoire jusqu'à le réduire à sa plus simple expression.
On va revenir au TSO tantôt. Je m'excuse de vous interrompre, mais on va y aller parce que le sujet est assez dense, OK? Il y a beaucoup de cynisme chez les infirmières à qui j'ai parlé, et voici pourquoi. Parce qu'il y a eu des primes dans le passé, là, je pense que c'est dans la première vague ou dans la deuxième, là, 1 000 $ par mois. Mais ce que j'ai compris, c'est que si une infirmière prenait un congé de maladie dans le mois, ben la prime de 1 000 $, elle sautait. Là, les conditions de votre prime annoncées aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes?
Non, pas du tout. C'est de travailler à temps plein pendant un an. Donc, on comprend que dans cette année-là, il va y avoir une vie normale, mais l'idée, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, on s'entend que, et pendant la pandémie, ces primes-là, c'est ce qu'on appelait les primes COVID que plusieurs personnes ont eues dans différents réseaux. Mais c'est sûr que là, on avait une urgence. L'urgence aiguë qu'on a présentement, c'est celle-là qu'on veut corriger. Et on s'attaquait pas à la structure des l'organisation de la gestion. Faut qu'on le comprenne. Okay. Je le comprends, leur scepticisme, là. Mais je vais comprendre d'être sceptique. Mais on veut vraiment s'attaquer à la base du problème, qui est l'organisation, là.
Qu'est-ce qui ferait que quelqu'un ne toucherait pas sa prime? Est-ce que, je veux dire, tu prends une semaine de vacances, t'es malade? Qu'est-ce qui ferait? Parce que là, je vous le dis, les infirmières, elles cherchent la petite bête noire. Elles cherchent le petit échappatoire qui va permettre au gouvernement de ne pas leur payer la prime.
Bon, je les comprends parfaitement bien. Mon collègue va annoncer dans les prochains jours la directive, là, les détails de la directive, mais l'objectif, là, c'est d'amener le plus possible de gens dans le réseau pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc, on s'entend que ça, les congés, de pas être forcés à rentrer, à faire du temps supplémentaire, ça fait partie de tout ça, là. Puis on peut comprendre que quelqu'un peut être malade dans une année. Donc, il faut comprendre que tout ça, l'objectif, là, c'est celui qu'elle nous demande depuis des années. Je veux avoir une meilleure qualité de vie. Je veux des ratios. Je veux travailler de façon adéquate. Je veux pas mettre les patients en danger ni ma santé. Donc, c'est là-dessus qu'on veut tabler.
OK. Ben vous parlez de ratios, là, puis de temps supplémentaire obligatoire. On va écouter un extrait d'une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques minutes avec Caroline Dufour. C'est une infirmière qui habite en Outaouais. Elle a largué le réseau public québécois récemment au mois de décembre pour aller travailler à Ottawa.
Ce que j'aurais voulu entendre, c'est de dire on va déployer les projets ratios. Qu'on a fait des projets, puis on n'a jamais vu le jour de ces projets-là. On va mettre en place des ratios qui sont plus humains, qui permettent de donner des meilleurs soins, qui permettent aux infirmières d'exercer pleinement selon leur champ de compétences. Peut-être de déployer le rôle des infirmières auxiliaires, un peu comme en Ontario, qui puissent en faire plus selon leurs compétences. J'aurais aimé ça dire surtout qu'il n'y aura plus de temps supplémentaire obligatoire, qu'on fixe un objectif, puis qu'on se dise ça suffit, puis on reconnaît c'est quoi la charge normale de travail, puis on arrête de forcer les gens à rester.
OK, il y a deux points dans le discours de Mme Dufour, là, Mme la ministre. D'abord, le projet ratio. Quand elle travaillait au Québec, elle avait beaucoup plus de patients dont elle s'occupait beaucoup moins bien qu'en Ontario, où elle en a beaucoup moins. Qu'est-ce qui va changer dans le plan aujourd'hui qui a été annoncé sur les ratios?
Bon, ça, c'est la convention collective là, qu'on vient de terminer de négocier et de mettre en place qui s'adresse à ça. Et on a des engagements de diminuer les ratios, c'est-à-dire d'avoir des meilleures équipes de soins, exactement pour ce que Mme Dufour vient de mentionner, c'est-à-dire de prendre une... Les infirmières veulent prendre soin des patients, veulent le faire adéquatement, et c'est ça qu'on a mis en place. Mais par contre, et en plus dans la convention collective, on veut ajouter des infirmières, mais on les a affichés les postes et on n'arrive pas à trouver. Donc, il faut, pour être capable que ces projets ratios-là fonctionnent, il faut avoir du monde. Et c'est pour ça qu'on a mis les incitatifs aujourd'hui. Elle parle du temps supplémentaire obligatoire, si vous me permettez, Patrick, que j'aille immédiatement. Elle a raison. La base, c'est que le temps supplémentaire obligatoire, on comprend tous qu'il peut arriver que dans un quart de travail, à la dernière minute, une collègue qui devait prendre le chiffre de soir annonce qu'elle est malade ou ses enfants ont un problème, elle peut pas entrer. On peut dire que quand on est dans l'exceptionnel de demander à quelqu'un, peux-tu rester 2 heures de plus ce soir pendant que je fais rentrer quelqu'un d'autre? Ça peut arriver. Mais là, c'est devenu une façon de combler des horaires réguliers. C'est ça qui ne fonctionne pas et c'est ça qu'on va changer.
Mais, OK, est-ce que... L'autre question qui m'a été posée par des infirmières aujourd'hui, Mme Lebel, c'est pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas simplement annoncé que telle date, il n'y aura plus de temps supplémentaire obligatoire?
Mais parce que c'est encore comme... C'est un peu comme les ratios, Patrick, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Nous, on est... Dans la convention, on s'est mis d'accord sur ces principes-là. Mais là, avec la deuxième, troisième, quatrième vague, bon, on les connaît toutes, là, le fameux arrêté ministériel qui nous obligeait de faire rentrer du personnel. Bon, on connaît l'histoire. Les gens sont épuisés. Et là, on n'a pas les ressources nécessaires pour... Comment je dirais ça? Donc... changer la roue, la faire tourner de l'autre côté, puis là, c'est ça qu'on veut faire. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est que là, on veut une entrée massive, on veut réintégrer des gens, et on va... Mon collègue s'est engagé à faire un suivi sérieux, exactement comme l'infirmière qu'on vient d'entendre dans l'extrait l'a dit, à faire un suivi du temps supplémentaire obligatoire. Ça n'a pas de bon sens qu'une infirmière entre le matin, je vais dire 8 heures, mais il y en a qui vont dire c'est plutôt que ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, pour commencer son quart de travail, et elle ne sait pas à quelle heure elle va sortir le soir. Et ça, il faut que ça change, et on va faire un suivi serré.
Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas, puis les infirmières ne viennent pas en nombre suffisant?
Bien, c'est sûr que nous, on mise sur le fait que les infirmières nous disent depuis le début, à l'instar de Mme Dufour, que c'est la qualité de vie qui est problématique et c'est là-dessus qu'on veut travailler. Mon collègue a fait des appels, va travailler avec ses gestionnaires de façon serrée. On l'a vu, il y en a certains endroits, je ne veux pas nommer des villes, mais je pense que c'est à Amos ou des endroits comme ça où on s'organise avec les horaires autogérés, où on fait participer les infirmières dans leurs horaires et ça fonctionne. Et je pense que ça... Pour moi, je sais que ça a l'air d'une évidence, mais c'est ça qu'on va faire,
non,
c'est ça qu'il faut faire.
C'est une évidence. On a parlé tantôt avec Luc Mathieu là, de l'Ordre des infirmières et infirmiers, puis il nous parlait là, des horaires autogérés, de ce qu'on appelle la décentralisation. Ça, là, Mme Lebel, il y a beaucoup d'infirmières qui m'ont parlé de ça.
Et c'est dans la convention qu'on vient de signer?
Bien, regardez, la question que je me pose, là, c'est ça, là, il semble que ça se fasse chez les Anglais. Il semble que chez les Anglais, il n'y a pas beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Trouvez-vous que le réseau francophone gère aussi bien que le réseau anglophone?
Bien, on peut certainement s'inspirer des bonnes pratiques qui fonctionnent ailleurs, puis je pense que c'est ce qu'on a fait. Il faut comprendre
que... Trouvez-vous que les Anglais sont meilleurs que les Français?
Bien, on constate présentement qu'ils semblent avoir des modèles de gestion plus efficaces dans plusieurs établissements, mais dans l'établissement francophone aussi, il y a la question des horaires autogérés, des chiffres de 12 heures, et ça fonctionne. Mon collègue nommait Sainte-Justine, je pense, aujourd'hui en point de presse, qui est un exemple où ça fonctionne. Donc, je pense qu'il faut appliquer les bonnes pratiques, et on a ça dans la convention. Elle n'a pas, par contre, eu le temps encore de faire... Elle est toute nouvelle. L'encre est à peine sèche sur cette convention, donc elle n'a pas eu le temps de faire ses effets. Mais ce que je veux que les infirmières comprennent, on les a entendus et on les a, les outils. Maintenant, il faut tous ensemble les mettre en place et je suis convaincue qu'on va pouvoir traverser cette année-là et arriver de l'autre côté de ça avec des meilleures conditions d'exercice comme elles le réclament depuis toujours.
OK. Dernière question. On me signale, là, puis je vous ai pas... Vous êtes occupé avec les infirmières, je comprends ça, là, mais c'est un problème connexe que vous connaissez. On me signale qu'au CIUS Centre-Sud, là, c'était la journée aujourd'hui pour postuler sur les postes affichés à la DPJ. On sait qu'on manque de travailleurs, travailleuses à DPJ, des travailleurs sociaux. On a un peu le même problème à DPJ qu'avec les infirmières. Vous allez faire quoi? C'est quoi le plan pour la DPJ?
Ben, dans la DPJ, il y a également une convention collective, une entente que la PTS est en train de
faire. Mais le monde n'applique pas. Le monde ne postule pas.
Ou, effectivement, mais là-dedans, il y a évidemment des incitatifs. Mon collègue a mis en place, là, Lionel Carman, des primes cet été, et ça a fonctionné. Là, on a réussi à retenir et à attirer plus de monde. Pas encore suffisamment. Donc, on a bon espoir là, que quand la convention va avoir été présentée à tous, qu'on va pouvoir enfin l'enclencher, on va pouvoir avoir les mêmes choses. Mais on a des mécanismes. Le problème est similaire. Il est aussi, là, il y a les questions d'attraction-rétention, puis on espère que ces mécanismes-là vont faire effet parce qu'il y a des bonnes choses également là-dedans.
Merci, Mme Lebel. Je sais que vous avez d'autres entrevues. Merci d'avoir trouvé le temps de nous parler aujourd'hui.
Ben, merci à vous.
Salut, bonne journée. Sonia Lebel, qui est la présidente du Conseil du Trésor, la gardienne de notre bourse collective. Je vous le dis, les infirmières à qui j'ai parlé aujourd'hui sont sceptiques pour la plupart. Il y en a qui voient, je vais en citer une, un mince espoir. Et c'est pas une question de cash. Donc, ce qui déçoit beaucoup d'infirmières, c'est, écoutez, ce que je veux, c'est pas 15 000 piastres de plus. Avec le TSO, le temps supplémentaire obligatoire, j'en fais déjà 95, j'en fais déjà 100. Pas une question de cash. Par exemple, quand mon chiffre finit à 4 heures, je veux pas une fois sur deux devoir m'étirer jusqu'à minuit.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.